Cheikh Khaled Ben Tounes, vous êtes le guide spirituel de la voie spirituelle Alaouia. Peut-être pour commencer, comment est-ce que vous définiriez cet enseignement du soufisme?
Bonjour. Définir l'enseignement du soufisme, c'est une vaste question, parce que pour les soufis, la conscience a toujours accompagné l'homme depuis l'aube de l'humanité, et que le soufisme, en quelque sorte, n'est que la continuité de cette sagesse universelle à travers le message spirituel de l'islam. Et c'est pour ça qu'on parle de la primordialité, de la voie de la primordialité. Donc cette voie qui a parcouru toutes les civilisations et à travers les civilisations, de prophète en prophète ou de sage en sage, et elle est arrivée dans l'islam à travers le message du prophète Mohammed, qui en a fait part, mais qui l'a réservé en quelque sorte à un groupe, et il a amené deux choses, la loi, la charia d'un côté, et il y a la haqiqa de l'autre, donc la vérité, et donc cette connaissance de vérité. Et les soufis se sont distingués en quelque sorte par la transmission de cet enseignement de génération en génération, de maître à maître. Donc il y a des chaînes de transmission qui sont reliées dans l'espace et le temps, puisqu'on connaît pratiquement tous les maîtres successifs. Donc ça s'est passé de l'un à l'autre. Donc il y a une rencontre physique, donc ces chaînes sont historiques, elles traversent le temps et elles nous sont arrivées à notre époque. Donc il y a plusieurs, bien sûr, plusieurs ordres. Et je voudrais peut-être vous lire ce que l'UNESCO en dit, parce que ça, c'est l'organisme de l'UNESCO, ce qu'il en dit, de l'ordre soufi. Il dit, l'ordre soufi, fondé par le Cheikh Al-Alaoui, a fait de la promotion du dialogue interreligieux sa priorité. L'ordre montre comment mieux servir l'humanité, comment tenter d'harmoniser et d'embellir le monde, il accepte et admet tout ce qui peut apporter à l'homme le confort matériel, mais toujours en étroite relation avec un équilibre permanent entre le profane et le sacré. L'ordre mise sur la fraternité aimante des hommes, il invite en effet à ne pas rejeter la rationalité au détriment de la spiritualité, à ne pas s'enfermer dans une religiosité frileuse. Voilà comment le Conseil exécutif de l'UNESCO, dans sa 37e conférence générale en novembre 2013, qualifie l'ordre soufi alaoui.
Donc, avec ce programme que l'UNESCO reconnaît, il faut dire que le soufisme et la voie alaouia, c'est plus que juste un islam spirituel, mais c'est une recherche de sagesse plus profonde, on pourrait dire.
C'est une école, c'est une école pour la tolérance et la convivialité, ça c'est clair. Parce que le Cheikh Al-Alaoui a été à son époque, donc début du 20e, un maître spirituel qui a quand même revivifié cette voie. Il a voulu qu'elle soit une école de pensée.
Comment est-ce qu'on pourrait distinguer cet islam spirituel, cette école alaouia, d'un islam qu'on pourrait appeler l'islam des mosquées ou l'islam religieux?
Alors, on peut le distinguer de la façon suivante. C'est que l'islam qui se trouve dans les mosquées, c'est, je dirais, il parle de l'aspect extérieur de l'islam, avec son dogme, avec sa théologie, avec donc tout ce qui est apparent extérieur. Mais il ne nous parle pas des subtilités du message qui lui parle du bel agir. Parce que vous savez, l'islam est fondé sur trois piliers. qu'on appelle l'islam, l'iman et l'ihsan. C'est-à-dire l'islam, c'est la loi, c'est la charia. L'iman, c'est la foi. Donc c'est une énergie et c'est une conviction interne. Et l'ihsan, c'est l'excellence ou c'est le bel agir. Donc c'est ces trois piliers qui fondent l'islam, dont l'islam traditionnel des mosquées. On ne parle en fait que des deux aspects, l'aspect de la loi et l'aspect de la foi. Mais on néglige souvent cet aspect du bel agir, c'est-à-dire que cette transformation qui permet à l'homme de se transformer lui-même et d'agir au niveau de la société dans laquelle il vit.
Donc, si je vous comprends bien, plus qu'un islam spirituel, il faudrait le reconnaître comme un islam pratique.
Tout à fait, tout à fait. Dans tous les aspects, pas seulement l'aspect religieux, mais dans son aspect social, dans son aspect comportemental.
Et cette spiritualité pratique que promeut la voie à l'aouïa, que promeut l'école du soufisme, quel remède est-ce qu'elle entend apporter pour soi et pour le monde?
Alors, le remède, il n'y a pas une recette, on ne peut pas dire que nous avons une recette établie et qu'on peut remettre à... C'est par d'abord le renforcement des liens humains. C'est renforcer les liens entre les êtres humains, dans cette famille humaine, reconnaître que la vérité n'appartient à personne, mais que chacun en a une part. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est de rechercher la paix avec soi-même, la paix avec l'autre et la paix avec l'environnement. Donc, faire de la paix, travailler sur soi pour agir. Donc, la paix devient une énergie transformatrice d'abord de nous-mêmes pour trouver un apaisement, pour trouver un équilibre et agir sous la forme la plus paisible, la plus, je dirais, humaine, pour apporter à la société ce qui est nécessaire dans nos relations, dans notre parole, dans nos actes, faire en sorte que ce lien d'humanité reste fort. Et les soufis prennent comme image les lettres de l'alphabet. Parce que pour eux, nous sommes tous de la même alphabet, et les lettres seules expriment un son. Mais une fois unis les uns avec les autres, par exemple, si on prend le mot amour, eh ben, il faut qu'il y ait des lettres qui s'unissent par le A par rapport au M, par rapport au O, par rapport au U, par rapport au R. Et là, ça donne du sens. C'est-à-dire, c'est dans notre relation à l'autre que le monde prend sens pour nous.
La question, évidemment, quand on pense au soufisme, on a à l'esprit aussi une certaine mystique et donc une relation à Dieu. Est-ce que vous diriez que l'école alaouia défend ou recherche une image spécifique de Dieu ou qu'elle transmet une image spécifique de Dieu à travers justement l'action qu'elle promeut?
Alors, je n'irai pas aussi loin. Je ne dirai pas qu'elle cherche ou qu'elle transmet l'image de Dieu, parce que Dieu est l'infini. Il est transcendant et intemporel à la fois. Donc, il est proche et lointain. Il est dans l'air qu'on respire. Il est notre vision de la nature. Quand on voit les feuilles des arbres bouger sur l'arbre, on le voit dans la mer, dans ces vagues successives de l'océan. Donc, tout porte son empreinte. Il est tellement présent et sa présence est telle que nous ne le voyons pas. Donc, on ne peut pas donner de lui une image. Par contre, les soufis parlent du goût de Dieu. Donc, c'est rechercher ce goût de Dieu, c'est rechercher cette saveur de Dieu à travers nous. Donc, les êtres humains, mais aussi à travers toute la beauté qu'incarne la nature, quand on voit une fleur, on s'extasie devant la beauté de la fleur, mais devant celui qui a pu lui donner cette beauté, cette couleur, cette diversité. Comment les mêmes arbres sont irrigués par la même eau, mais que chaque arbre donne un fruit spécifique. Et c'est à travers cette méditation sur la création, sur ce qui nous entoure, sur nous-mêmes, sur le mystère que nous portons en nous, qu'on peut petit à petit s'approcher de cette présence. Dieu est une présence, ce n'est pas une image, c'est une présence. Et c'est une présence qui, une fois qu'on se lie à elle, on est apaisé, on est dans la confiance, on arrive à supporter la difficulté. On arrive à supporter les épreuves et à avoir une certaine relativité avec le monde matériel qui nous entoure. Que nous ne soyons pas toujours emprisonnés ou enivrés par nos passions, nos désirs, mais de pouvoir s'apaiser, que tout ça s'apaise et que l'homme distingue en quelque sorte, comme je dirais à l'aube, quand le jour se lève entre la nuit et le jour, quand il y a ce début de lumière qui commence à éclaircir les choses, et bien ça se passe intérieurement chez nous, chez chaque être humain, cet éclaircissement qui se fait, et là, et bien il y a un travail nécessaire, c'est la méditation, c'est le dhikr, c'est ce travail perpétuel, parce que Dieu a des attributs. Ses attributs, il y a le sage, le miséricordieux, le beau, le roi, le saint. Tous ces attributs s'incarnent, prennent forme, deviennent des réalités, deviennent des énergies à laquelle l'homme nourrit sa conscience. Donc c'est un travail de longue haleine sur soi-même et sur son comportement.
Ce travail de longue haleine qui apporte justement la lumière que vous avez un peu décrite de manière très belle, vous le poursuivez depuis longtemps. Vous êtes le guide spirituel de la voie Alaouia depuis 1975-1975 chez Khaled Ben Tounes. Le soufisme que vous soutenez, quel rôle vous voyez à cette école du soufisme dans la société en général? Quel est le rôle que vous-même, peut-être même personnellement, puisque vous avez quand même un grand engagement de ce côté-là, qui a été largement reconnu encore tout dernièrement grâce au prix de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, qui a reconnu votre grand effort, là, il y a même pas quelques semaines. Quel rôle est-ce que vous voyez pour votre personne et pour l'école que vous représentez à l'intérieur de la société?
Eh bien, si nous regardons aujourd'hui où on en est sur le plan de l'actualité, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au cœur de l'Europe, donc qu'est-ce que nous pouvons apporter? Comment chacun de nous, soufi ou pas, comment nous pouvons apporter notre aide? Comment nous pouvons apaiser les choses? Comment arrêter ce tourbillon qui va s'emparer ou qui est en train de s'emparer de pays entiers, de millions de personnes qui sont rejetées dans la rue parce qu'il s'est passé ailleurs, il s'est passé au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, et en Afghanistan et dans d'autres pays, en Asie. Mais l'homme, nous les hommes, souvent nous faisons la politique de l'autruche. Nous ne voulons pas voir quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui est lointain. Et nous oublions que nous sommes une humanité et que chaque peuple, chaque nation est un membre à part entière de ce corps qui s'appelle l'humanité. Donc, ce que peut apporter le sophisme aujourd'hui à travers sa philosophie, à travers sa spiritualité, c'est essayer d'atteindre le cœur de chacun d'entre nous en lui disant que nous sommes une partie. une partie de ce corps, une cellule de ce corps qui s'appelle l'humanité. Et que le mal chez autrui, nous, tôt ou tard, si on ne le soigne pas, un jour, nous l'aurons chez nous. C'est-à-dire, il va nous toucher. Faire comprendre aux gens que cette réalité de l'unité, que nous sommes dans l'unité, que l'humanité est une, et qu'on ne peut pas séparer par des tabous, tel peuple, telle religion, telle couleur, nous sommes les lettres de la même alphabet. Il y a des lettres droites, il y a des lettres rondes, il y a des lettres carrées, et il faut les accepter telles qu'elles sont. Parce que si on essayait de rendre toutes les lettres semblables, nous ne pouvons plus écrire. C'est-à-dire que le mystère de la connaissance n'est plus possible. On ne peut plus avoir la clé de lecture qui nous permet de lire qui nous sommes et à quoi nous sommes utiles les uns aux autres. Donc c'est ça, c'est cela que le sophisme, aujourd'hui, à ma manière, tel que je le vois et tel que je le ressens, c'est sa contribution à une humanité réconciliée avec elle-même.
Cette réconciliation de l'humanité, cette lecture d'un texte où on puisse reconnaître chacune des lettres dans sa spécificité et pour qu'elles donnent ensemble un sens à l'ensemble justement du message pour se vivre en paix dans le monde où la violence semble se déchaîner, quels sont les principes ou les moyens à appliquer pour la réaliser?
C'est par l'éducation. Il n'y a pas d'autre moyen. Éduquer. Éduquer et encore éduquer. Et très tôt. Et c'est à cela qu'aujourd'hui nous sommes attachés, c'est à ces écoles de la paix. Et comment introduire des programmes dans les écoles pour nos enfants. Que très tôt, ils passent de la culture du je à la culture du nous. Parce que c'est une culture. La culture que nous leur donnons aujourd'hui est une culture qui les enferme dans un jeu égoïste et dans un système d'opposition. Pour gagner, il faut être plus malin, il faut être plus fort, il faut être meilleur, et on est toujours dans cette course à l'infini qui fait que les égos prennent des dimensions telles que je ne vois que moi-même. Le reste ne m'intéresse pas. Il y a que ma vie qui est prioritaire. Et j'oublie les autres. Même plus que les oublier. Ils n'existent pas à mes yeux. La seule chose qui existe, c'est mon intérêt. C'est de ramener petit à petit la conscience très tôt à nos enfants que nous sommes dans le nous. C'est notre terre. C'est pas ma terre. C'est notre maison, c'est notre océan, c'est notre ciel, et que très tôt, nos enfants prennent conscience de cette réalité unitive et qu'il se traduit dans leur concept de réussite de la vie en faisant en sorte que ma réussite, elle est dans la réussite de l'autre, dans la synergie. Donc, essayer de construire un monde l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Quand je sais que mon avenir dépend des autres, alors je les regarde d'une autre façon, parce que j'ai besoin d'eux et ils ont besoin de moi. Donc, il y a tout un travail en profondeur et c'est un travail autour du cercle. Ce n'est pas le système pyramidal, c'est un système de cercle où chaque point qui se trouve dans la circonférence est relié directement au centre par le rayon qui le relie directement au centre. Ce qui fait que ce cercle qui est animé, qui est vivant, fait en sorte que chaque point, à un moment donné de cette dynamique du cercle, se trouvera soit en bas et à supporter tous les autres, soit en plus haut. Et c'est lui qui est supporté par tous les autres. Donc, faire en sorte de comprendre, faire comprendre à l'homme qu'il ne faut pas faire à l'autre ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, c'est souhaiter à l'autre ce qu'on souhaite à nous-mêmes, Donc, c'est véritablement aller dans des recoins de chacun des caractères qui habitent notre conscience et leur donner cette amplitude, cette ouverture, cette universalité et cette unité. Et là, on peut peut-être essayer, alors à ce moment-là, de changer les conditions du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Vous avez parlé d'éducation chez Khaled Bentounes, vous avez parlé des écoles de la paix. Peut-être que je vous demanderais simplement de spécifier de manière plus concrète ce que sont ces écoles. C'est donc des écoles pour des enfants où cette forme d'enseignement leur est transmise.
Tout à fait, tout à fait. Ça commence à la maternelle et dans les écoles primaires. Il y en a aujourd'hui quelques dizaines et la prochaine école va ouvrir au mois d'août à Almere dans les Pays-Bas. Ça sera la première école en Europe qui va ouvrir ses portes. Il y en a déjà en Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et de pouvoir, si vous voulez, la glisser, parce que les écoles, ça demande beaucoup d'investissement, nous n'avons pas les moyens financiers de pouvoir créer des écoles, mais c'est surtout de mettre à la disposition des éducateurs et des éducatrices des cours qui leur permettent d'introduire dans les programmes scolaires cette façon de voir les choses. À travers les domaines, les différents domaines. Par exemple, cette éducation se base sur quelque chose de très précis. C'est la paix au cœur de l'enseignement. Si on fait du sport, il y a une relation avec la paix. Si on fait des mathématiques, il y a des relations avec la paix. On a réuni, il y a 3 ans de cela, 27 universités dans le monde. Donc des universités européennes, américaines, sud-américaines, africaines, asiatiques. Il y avait même l'université de Moscou qui était avec nous. C'était pour les mathématiques et le vivre ensemble. Comment faire en sorte de voir que par les mathématiques, on arrive à être dans le vivre ensemble. Et ça a été une expérience, mais extraordinaire. C'est un colloque qui a duré une quinzaine de jours, c'est une rencontre qui a duré une quinzaine de jours, où chaque université a travaillé sur ce que veut dire les mathématiques et le vivre ensemble, et nous avons eu des ateliers d'une richesse phénoménale, phénoménale, extraordinaire. Et nous essayons donc, par les mathématiques, la science la plus rationnelle, et la plus universelle, puisque les mathématiciens parlent la même langue, et le chiffre est partout le même, de donner cette notion de vivre ensemble. Et bien, comme on s'est attaqué aux mathématiques, on va la retrouver aussi dans d'autres domaines, dans le domaine, par exemple, de l'éveil des sens. Ces écoles essaient, c'est pas de bourrer le crâne des enfants, mais essayer de leur donner la possibilité de réfléchir, la possibilité d'avoir un libre arbitre, mais tout en intégrant cette notion de relation avec l'autre. Donc, les éveiller à cette relation avec l'autre. Mais pas seulement l'autre en tant qu'humain, mais aussi l'autre, l'environnement dans lequel on vit, l'arbre, l'oiseau, l'eau, la mer, le ciel. C'est d'ouvrir l'être à cette relation qu'il a avec tout le vivant, le respect du vivant.
Dans un autre domaine, vous avez aussi publié un livre il y a quelques années autour du rapport entre l'islam et l'Occident, le dialogue finalement entre deux civilisations, on pourrait dire. Comment favoriser, selon vous, Cheikh Khaled Bentounes, ce dialogue pacifié entre l'islam et l'Occident alors que les théories du conflit des civilisations, si on peut l'appeler comme ça, sont quand même très vivaces actuellement?
Bien sûr que c'est un grand chantier, mais je peux vous avouer que la notion de civilisation n'est comprise et n'est véritablement réel que dans la mesure où on voit que chaque civilisation est une brique sur laquelle s'est posée une autre. Et que notre civilisation aujourd'hui moderne, s'il n'y avait pas eu la civilisation chinoise, indienne, mésopotamienne, égyptienne, grecque, romaine, etc., jusqu'à nous aujourd'hui, notre civilisation n'aurait jamais existé. Donc, il y a une continuité. Si on voit les civilisations dans les oppositions, c'est une image que nous leur donnons aujourd'hui. Mais dans la réalité, les civilisations ont toujours été, je dirais, des transmetteurs, l'une après l'autre, de cycle en cycle, d'humanité en humanité, d'un savoir, de connaissances, sur tous les plans, que ce soit dans les sciences abstraites ou dans l'art. Ou dans l'agriculture, nous avons fait que continuer ce qu'ont fait nos aïeux. Et quand on voit aujourd'hui que chacun regarde un petit peu son nombril, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a un trou au milieu du ventre. Ce trou le rattache à qui? Il le rattache à une mère. Et cette mère elle-même, est-ce qu'elle a ce trou elle aussi? Oui, ce nombril, nous l'avons tous. Et chacun par son nombril, il n'a qu'à remonter sa propre histoire, sa propre lignée. Il verra qu'il est lié à des millions ou peut-être des milliards d'êtres humains qui ont traversé toutes les époques et que nous sommes le produit de toutes ces civilisations, de tous ces peuples, et que la science aujourd'hui, quand on fait un examen ou des tests sur notre ADN, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons dans nos propres ADN les gènes même d'une humanité qui a disparu. Les Cro-Magnons qui ont disparu puisque c'est l'Homo sapiens qui a pris leur place. Mais ils existent dans nos gènes jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que cette vision politique, ou géopolitique des chocs des civilisations est, à mon sens, une des erreurs les plus grandes qu'on a commises à notre époque. Parce qu'on est en train de faire des civilisations, des humanités différentes, alors qu'ils sont une humanité. Et le mythe adamique, il est porté par toutes. Toutes les civilisations ont un début, ils parlent tous d'un début, d'un homme, d'une femme, d'une famille. Et nous savons tous aujourd'hui que l'humanité a pris racine dans un continent spécifique qui s'appelle l'Afrique. L'Afrique de l'Est, c'est là qu'elle est née, et de là qu'elle est partie. Donc, il y a là des contradictions dues à l'hégémonie certainement politique de certaines puissances qui veulent se voir, eux, l'humanité par excellence et que les autres sont des humanités différentes par leur culture, par leur religion, par leur mode de vie. Eh bien, c'est des civilisations inférieures. Il n'y a pas de civilisation inférieure. Il n'y a pas de civilisation supérieure. Il y a une humanité qui transite et qui voyage sur cette merveilleuse terre, cette oasis de vie qui se transforme et on a besoin aujourd'hui de remettre dans notre conscience ce point central qui est le point de l'unité, notre unité fondamentale. Voilà à mon sens. Maintenant, ceux qui ont fait le choc des civilisations, c'est des penseurs. Demain, il y aura peut-être un autre qui dira le contraire. Hein. C'est dû à un moment historique de domination où on pensait que c'était la fin de l'histoire. Il y a même ceux qui ont écrit la fin de l'histoire. Ben, il n'y a pas de fin dans l'histoire. L'histoire continue et elle continuera, et là, pour aller vers ce vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est d'aller vers ce vivre ensemble en paix. Et je l'ai constaté le jour du vote à l'Assemblée générale des Nations unies, tous sans exception, tous les pays, les 193 pays, à l'unanimité, il n'y a pas un pays qui a manqué. Pourquoi? Est-ce que parce qu'on est puissant? Est-ce que parce qu'on a derrière nous des moyens financiers ou des moyens ou politiques ou militaires? Non. On était une simple petite, toute petite ONG. Et pourtant, la réponse était unanime. Ça a duré 4 ans, bien sûr. Il a fallu aller taper à toutes les portes. Il a fallu solliciter tous les pays, voir des ministres, parler à des personnalités de tous les pays. Oui, ça a pris du temps. Mais on a fini par avoir cette journée internationale du vivre ensemble en paix, à l'unanimité des 193 pays, ce que nous n'avons pas aujourd'hui pour arrêter une guerre. Donc, à mon avis, si on a foi dans ce qu'on est, dans ce qu'on porte, et si c'est utile aux êtres humains, sans arrière-pensée, ni convaincre, ni convertir, mais apporter quelque chose qui peut soulager, apporter quelque chose qui peut donner du sens, apporter quelque chose qui peut nous aider devant les obstacles.
Vous abordez là déjà la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Avant d'y venir plus spécifiquement, juste encore une question. Vous parlez souvent de votre rôle comme d'un rôle de médiation dans ce dialogue entre les civilisations ou dans ce dialogue pour la paix dans la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rôle de médiation?
Le rôle de médiation. Vous savez, la médiation, c'est un chemin difficile. Parce que pour être médiateur, il faut être libre. Il faut être libre dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Il ne faut pas être attaché à un groupe ou à une partie. Parce que la médiation, elle se veut. Il faut que les deux parties, parce que la médiation arrive, où il y a deux formes de médiation. Il y a la médiation préventive, c'est celle dont je parle, c'est-à-dire c'est éduquer, c'est former, c'est parce que dans ces écoles, effectivement, la médiation a sa place. On enseigne la médiation à des enfants, déjà très tôt, dans l'école, pour qu'ils ne mettent pas un de leurs camarades sur le côté, parce qu'il est nouveau, ou parce qu'il a une autre couleur, ou parce que il est plus petit. Donc, comment, dans la classe déjà, la médiation a son rôle. Donc, la médiation préventive, ça, c'est avant le conflit, c'est d'éviter le conflit. Et puis, il y a la médiation, elle, qui est réparatrice. Une fois que le conflit arrive, alors comment faire tous les efforts possibles pour que le conflit puisse s'arrêter et trouver une solution d'équilibre qui permette aux uns et aux autres de comprendre que c'est dans leur intérêt d'arrêter le conflit parce que le conflit est destructeur. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, les médiateurs, il faut qu'ils soient neutres. Il faut trouver des médiateurs neutres. Il faut trouver des médiateurs qui véritablement incarnent en eux cette partie du monde de neutralité où ils sont là pour réconcilier les deux parties et retrouver le sens de l'unité. Donc la médiation est un outil qui accompagne dans tous les stades d'évolution de la société, de l'enfance jusqu'à l'adulte. Et autre chose, c'est que la médiation nous permet de regarder les origines du conflit, de ne pas s'arrêter au conflit lui-même. Mais pas, s'il y a conflit, c'est quelque part, il y a eu une entorse. Quelque part, il y a eu un oubli. peut-être conscient ou inconscient, mais on a fait quelque chose qui nous a poussé à aller vers le conflit. Il y a eu quelque chose avant. Donc, chercher la racine du mal, chercher les raisons qui nous ont poussé vers le conflit.
Merci pour ces explications très claires, en effet, sur ce qu'est la médiation. On peut peut-être en venir à cette journée internationale du vivre ensemble en paix que votre voix spirituelle à la Ouïa, Cheikh Khaled Ben Tounes, a proposée à l'ONU, qui l'a adoptée il y a 5 ans bientôt. En deux mots, pourquoi l'avoir proposée?
Alors écoutez, pourquoi l'avoir proposé? Donc ça s'est fait lors d'un congrès, le congrès du féminin, Parole aux femmes, qui s'est tenu en 2014 dans la ville d'Oran, en Algérie. Et parmi la discussion et qui a surgi, il y avait plusieurs thèmes. Et le vivre ensemble est arrivé. Et il a été choisi par les 3000, plus de 3000, 3200 ou 3600 délégués qui étaient présents de 42 pays. Le choix a été fait de proposer une journée du vivre ensemble en paix aux Nations Unies pour pouvoir, c'est pas, le but n'était pas d'avoir une journée, mais le but c'était de pouvoir trouver un moyen par cette journée de rappeler le sens du vivre ensemble et comment cette réconciliation de la famille humaine dans le respect des diversités pouvait avoir une journée, des moyens, un prétexte, si vous voulez, pour se rencontrer, pour s'ouvrir les uns vers les autres, pour pouvoir, je dirais aux yeux de tous, dans toute clarté, puisque c'est une journée internationale, donc elle appartient à tout le pays, elle appartient à tous les citoyens du monde, qu'ils soient africains ou asiatiques ou sud-américains ou européens. Donc, un moyen de permettre d'officialiser qu'il y a une rencontre, que ce vivre ensemble nous permet de nous rassembler sans se ressembler et de pouvoir, à partir de là, se respecter, se connaître mieux. Et on avait dit, on a pris l'exemple, par exemple, ben ça serait peut-être la journée où toutes les églises seraient ouvertes, toutes les mosquées seraient ouvertes, toutes les synagogues seraient ouvertes, tous les temples bouddhistes, hindouistes, les gens iraient les uns chez les autres, on pourra dresser des tables au milieu des quartiers où les gens pourront manger ensemble. Donc, faire une fête de cette humanité qui se réconcilie l'une avec l'autre. Et si vous voyez le film de nous tous qui a été sélectionné pour cette cinquième édition, ce film, ce magnifique film de Pierre Perra, il parle de ce vivre ensemble, mais dans la réalité, dans les pays qui étaient en conflit. On parle de Sarajevo. Comment, à Sarajevo aujourd'hui, c'est les bourreaux d'hier avec les victimes d'hier se rencontrent grâce à ce vivre ensemble. Et comment ils ont pu renouer, retravailler ensemble, créer des associations. Mais c'est pas seulement à Sarajevo. On peut se balader, on peut aller au Liban, on peut aller dans les zones de conflit. Comment le vivre ensemble produit l'effet qu'il produit, l'effet de se retrouver, l'effet de se pardonner, l'effet de renouer de nouveau et de repartir ensemble dans cette aventure qui est la vie. Donc, ça donne un moyen, et c'est pour ça que on a sollicité les Nations Unies. Ben, au début, c'était oui, c'est un bon projet, etc. Mais bon, il y a tellement de journées, on n'a pas besoin d'une nouvelle journée. Il y a ceux qui nous ont dit oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas à l'échelle des Nations Unies, faites-le au niveau du Maghreb ou faites-le au niveau de la Méditerranée, c'est largement suffisant, etc., etc. Et puis, il y a ceux qui nous ont dit, niet, votre projet, il ne passera pas, Ici, c'est la cour des grands, allez jouer ailleurs. Et puis, le 8 décembre 2017, à l'Assemblée générale des Nations unies, le vote était là et le rendez-vous a été pris et l'humanité a répondu oui. Et ça a été extraordinaire parce que tous les délégués qui étaient présents ce jour-là, tout le monde s'est levé, tout le monde a acclamé. C'était dans un moment de joie extraordinaire. Donc il y a une humanité en nous. Chacun de nous contient cette parcelle d'humanité en lui. Même s'ils étaient des délégués de pays, ce jour-là, ils étaient des êtres humains. Ils ont voté avec leur cœur. Parce qu'on venait, juste avant, rappelez-vous, le mois de novembre, on a failli avoir une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord. On parlait de guerre nucléaire. Et le stress, on le sentait au niveau des Nations Unies. Il y avait une tension au niveau des Nations Unies. Et bien, cette tension qu'il y avait a été salvatrice et que le 8 décembre, en fin de matinée, à midi, la JVP a été votée, la Journée internationale de vivre ensemble en paix a été votée à l'unanimité des 193 pays. Et il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y a eu une haie de tous les délégués. Ils ont fait une haie et je suis passé au milieu de ces gens-là que je ne connaissais pas. Et il y avait ceux qui me prenaient carrément dans leurs bras. Donc j'ai vécu cet instant d'humanité. Ce n'était pas un rêve, c'était une réalité et c'était à New York le 8 décembre 2017.
Très beau souvenir, Cheikh Khaled Ben Tounes. Vous l'avez un peu évoqué peut-être en disant, bah, ça fait une journée de plus parmi toutes ces journées que l'ONU a déjà soutenues ou instaurées. Justement, est-ce qu'une journée seule dans l'année, ça suffit pour faire avancer les choses et ce dialogue et ce respect entre les personnes et les peuples?
Bien sûr que non. Je vous ai dit, ça, ce n'est que le prétexte. C'est le moyen. Parce que comment faire signer tous les pays? Parce que tous les pays l'ont signé aujourd'hui. Personne ne peut aujourd'hui revenir en arrière. Aujourd'hui, pour cette 5e édition, nous avons, peut-être pas les 193 pays, mais nous avons une soixantaine de pays qui va la fêter cette année. Mais pas seulement la fêter, parce que grâce à elle, il y a aujourd'hui l'Observatoire des maires du vivre ensemble. Et vous avez des capitales qui aujourd'hui ont opté pour le vivre ensemble et qui commencent à y travailler dans leur ville, dans leurs écoles et les villes du nord et les villes du sud, grâce à cette journée. Il y a des liens aujourd'hui qui se sont créés. Il y a des échanges qui se font à plusieurs niveaux. Et il y a eu après la charte de Düsseldorf qui a été signée par tous les maires des grandes villes et des grandes capitales. Il y en a aujourd'hui plus de 55 villes dans le monde. Nous avançons et chaque année, il y a des villes qui rejoignent le groupe et qui veulent vivre cette expérience. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des villes en Turquie, vous avez des villes au Burkina Faso, vous avez en Amérique du Sud, vous avez en Asie. Cette journée, c'est comme une clé qui nous a donné la possibilité aujourd'hui, et je peux vous parler par exemple, la ville de Nice vient d'ouvrir la maison de la paix. Il y a des maisons de la paix qui s'ouvrent un peu partout. La ville d'Albert a ouvert la maison de la paix. Donc, on commence, la paix devient aujourd'hui une réalité qui, politiquement, socialement, agit au niveau des villes, au niveau des citoyens de ville. La ville de Nice, vous allez trouver, il y a plus de 26 associations qui se sont fédérées et qui fêtent la journée et l'année, ils font plusieurs rencontres sur le vivre ensemble. Vous avez ACAD, le vivre ensemble ACAD, qui a été le premier laboratoire en France, qui aujourd'hui a vient de fêter ses 10 ans. Donc, partout dans le monde, il y a cette journée à susciter, à alimenter, a fait fonctionner cette énergie de sortir un petit peu de son précaré et d'aller vers l'autre à l'occasion de ce mois de Ramadan. Il va y avoir plein de rencontres dans plusieurs villes où eh ben, les musulmans invitent les chrétiens, les juifs, ceux qui ne sont donc pas d'aucune religion, des bouddhistes, des hindouistes, mais aussi ceux qui se disent athées. Elle les invite à l'iftar, de partager le pain et le sel. Donc, c'est des petites actions, mais qui font. Nous avons des écoles, nous avons plus de 300 institutions dans le monde qui vont. Ce film va être regardé par des millions de personnes. Il y a des télévisions qui l'ont programmé pour le 16 mai. C'est le film Nous tous sur le vivre ensemble. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une journée comme les autres, parce que ceux qui l'ont institué lui donnent cette force. Parce que ce n'est pas un État qui a institué ça. Ce n'est pas le désir d'un État, c'est le désir profond de personnes, de la société civile.
Est-ce qu'on pourrait dire que pour vous, c'est une utopie qui, d'une certaine manière, devient réalité?
Alors, elle reste quand même, elle reste encore une utopie. Il faut dire la vérité. Mais une utopie qui, chaque jour, moi je la vois parce que je la vis au dedans, mais je peux pas être jugé parti. Mais je vois par exemple que Floriade, c'est une exposition qui vient tous les 4 ans. Floriade, cette année, c'est aux Pays-Bas. Et bien, la direction de Floriade nous a invités pour exposer quelque chose du vivre ensemble et de la culture de paix que nous, dans cette grande exposition internationale. Alors qu'il y a 70 pays. Qu'est-ce que nous, on peut exposer? On a réfléchi, réfléchi, on a dit, mais nous, on n'a pas de produit. Qu'est-ce qu'on va exposer? Eh bien, on a fait un jardin, le jardin des 5 continents. C'est un jardin, effectivement, où on a ramené, avec des spécialistes, des plantes et des fleurs des 5 continents pour montrer que la nature, la diversité de la nature, la beauté de la nature, elle est dans cette diversité et que l'humanité lui ressemble beaucoup. Parce que comme il y a des plantes des 5 continents, il y a aussi des hommes des 5 et des femmes des 5 continents. Et qu'en regardant comme un miroir le jardin, nous puissions voir que nous sommes aussi concernés, nous sommes aussi dans cette diversité, nous sommes aussi, et comment les êtres humains partent comme ça par parabole, par des miroirs. Il y a un mur, il y a un mur des valeurs de l'humanité, puis on a affiché tous les grands hommes. Depuis Lao Tzu jusqu'à. On n'a pas pu mettre beaucoup, mais on a essayé par continent de trouver une femme, un homme, une femme, un homme, par continent, qui incarne ces valeurs humaines, ces valeurs de compassion, ces valeurs de sagesse, ces valeurs d'amour, ces valeurs d'entraide, ces valeurs de solidarité. Parce que c'est ça l'humanité. L'humanité repose sur des valeurs. Et c'est pour ça que. Moi, je n'ai aucune crainte que cette journée meure un jour, parce qu'elle est portée par des valeurs et je suis persuadé que la génération qui viendra l'apportera encore beaucoup plus, parce qu'elle aura besoin de ça.
Merci beaucoup pour cette très belle parole d'espérance qui termine très bien cet entretien, Cheikh Khaled Ben Tounes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.